Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio et merci d'avoir choisi notre radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Stoppez tout ce que vous faites et levez les yeux vers le ciel. Et oui, puisque nous sommes le troisième mardi du mois de janvier et comme chaque mois, tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck qui est aux manettes de cette émission et ce maintenant depuis 18 ans. C'est la 211e émission d'À toi les étoiles, mais c'est aussi la première de cette année 2023. Alors comme le veut la tradition, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vœux de bonheur, de réussite et surtout santé, ce qui semble pour moi le plus important. Et puis aussi de pouvoir profiter de nuits bien dégagées pour observer dans le ciel tout ce que 2023 nous réserve. Et justement, pour cette première émission de l'année, eh bien on va parler des principaux événements qu'on pourra observer dans le ciel durant cette année 2023. Auparavant, comme c'est la première émission de l'année, sachez que cette émission a une marraine qui est Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et chaque première émission de l'année, eh bien, ils interviennent en direct pour vous présenter leurs vœux. Honneur aux femmes, on commence avec la marraine, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris. Bonjour Daniel Briot, meilleurs vœux.
Eh bien, merci beaucoup, c'est vraiment gentil à vous. Je vous retourne également, je vous souhaite également une très bonne année 2023. Et je souhaite alors à tous les auditeurs d'À toi les étoiles une année, comment on pourrait dire, de lumière et de paix. On en a vraiment besoin.
Oui.
Bon, l'actualité politique n'est pas très très encourageante, mais l'actualité astronomique promet d'être passionnante. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, est-ce qu'on aurons-nous cette année la réponse aux questions fondamentales que les hommes se posent depuis si longtemps sur l'univers, l'existence de d'autres vies ailleurs que sur la Terre, et vraiment des questions. Voilà, les astronomes travaillent là-dessus. Et alors, on espère toujours qu'on va trouver la solution. Et voilà. Donc, bon, revenons sur Terre. Donc, je souhaite à tous les auditeurs, à leur famille, à tout leur entourage, une année chaleureuse et très intéressante.
Que l'on vous retourne, Daniel Briot. Justement, vous êtes spécialisé dans la recherche de la vie ailleurs dans l'univers, qu'on appelle l'exobiologie, et les planètes ailleurs dans l'univers, les exoplanètes. On attend beaucoup de James Webb, ce fameux télescope spatial qui a été mis en orbite il y a quelques mois.
Oui. Alors justement, je voulais faire pas trop faire un truc spécialisé parce que pour les bons jeux, on se dit on n'est pas pour le travail, mais quand même, voilà. C'est sûr que dans les choses passionnantes qu'on espère qu'ils seront passionnantes cette année, ça sera James Webb. Et alors ce qui est toujours très très passionnant, c'est bon, l'expérience montre que quand on attend quelque chose, en vérité, c'est jamais tout à fait ce qu'on attend qui arrive. Et là, il y a toujours, ça soulève de nouvelles questions. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pas nous qui avons créé l'univers. Enfin bon, l'univers est plus compliqué que ce qu'on imagine, et toujours. Et c'est pour ça que ça pose toujours de nouvelles questions. Et c'est pour ça que c'est absolument passionnant. Donc on peut pas savoir ce que James Webb nous permettra de connaître de plus, qu'est-ce que de savoir, etc. Parce que ça sera forcément autre chose que ce qu'on a prévu.
Oui, tout à fait.
Voilà. C'est quand même. C'est toujours vraiment très très fréquent en science, mais alors en astronomie, bon, maintenant que les techniques spatiales, etc., puis même les techniques au sol sont de plus en plus extraordinaires, vraiment fabuleuses. On découvre vraiment des choses tout à fait extraordinaires. Et depuis que j'ai commencé l'astronomie, il y a des progrès absolument gigantesques qui ont été faits. C'est pas du tout ce que j'ai appris autrefois. Et voilà, et le monde est beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus. Mais on sait encore pas tout, on a encore plein de choses à découvrir, et c'est pour ça que c'est très chouette d'être astronome.
Exactement, et je préciserai que c'est la 11e année que vous êtes la marraine d'À toi les étoiles, et je vous en remercie.
Ça me vieillit, dites pas ça. Mais non, ça c'est, non, c'est un gage de fidélité. C'est un gage de fidélité, c'est très chouette.
Tout à fait. Merci Daniel Briot pour votre intervention et pour vos vœux aux auditeurs. On va vous laisser puisque maintenant on va accueillir Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et le parrain d'À toi les étoiles. Merci Daniel Briot.
Je vous en prie. Merci.
Au revoir.
C'est au tour de Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'À toi les étoiles, d'intervenir maintenant à l'antenne pour présenter ses vœux. Bonjour Jean-François Pellerin et meilleurs vœux.
Bonjour et meilleurs vœux à tous et à toutes.
Quel est votre message pour nos auditeurs?
J'aurais envie de résumer mes vœux selon cette phrase-là que j'aime bien. 2023, je souhaite à tout le monde que tous les voyants soient au vert dans les domaines des projets, dans le domaine de l'argent, de l'amour, de l'amitié, et que tous les astronomes amateurs qui nous écoutent puissent avoir le plus souvent possible des ciels purs et bien clairs pour les observations en astronomie. Et je voulais rajouter aussi une chose, 2023 c'est un peu l'année des femmes, puisque c'était il y a 60 ans le vol de Valentina Tereshkova. Et on a d'ailleurs Sophie Adenau, à qui on souhaite le meilleur pour cette année, qui est notre future française de l'espace, qui démarre son entraînement.
Exactement, et on lui souhaite bonne chance.
Peut-être dernière chose,
oui.
En ce début d'année, n'oublions pas d'aller à cette grande messe qui a lieu au mois de juin, le Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, qui est très spatial, il y a d'ailleurs même un très beau planétarium, parce que ça fait quand même 4 ans, à cause du Covid, qu'il n'y a pas eu de salon du Bourget.
Effectivement, donc on attend ça avec impatience. Et tout comme la marraine Daniel Briot, je préciserai que c'est la 11e année que vous êtes le parrain d'À toi les étoiles. Merci beaucoup, on va...
Merci, allez, bonne émission.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Nous poursuivons cette émission À toi les étoiles et comme je vous l'ai annoncé au début de cette émission, ce mois de janvier 2023 est consacré aux principaux événements astronomiques à observer en 2023. Et pour en parler avec nous, je reçois Philippe Morel, président de l'Astroclub de France. Philippe Morel, bonjour et meilleurs vœux pour 2023.
Bonjour Franck, meilleurs vœux à vous-même et ainsi qu'à tous les auditeurs.
Philippe Morel, on peut dire que cette année 2023 commence sur les chapeaux de roue, puisque parmi les événements astronomiques qu'on va pouvoir observer en 2023, eh bien on va avoir une comète potentiellement visible à l'œil nu à la fin de ce mois de janvier, voire début février.
Eh oui, elle va devenir potentiellement visible à l'œil nu à la fin de ce mois, c'est la comète 2022 E3 ZTF. Alors c'est un nom très poétique, ZTF ça veut dire Zwicky Transient Facility, qui est le nom d'un système de caméra qui était placé sur un télescope sur le télescope Samuel Hoskin de l'observatoire du Mont Palomar, donc qui a redonné une nouvelle jeunesse à ce télescope vieillissant, et grâce à cette mise en place on découvre à nouveau des comètes, des astéroïdes et plein de choses avec ce télescope, dont cette comète qui a été découverte le 2 mars 2022. Et elle était faible à l'époque, hein, elle était découverte de magnitude 17. On dirait que découvrir une comète de magnitude 17, c'est quand même très brillant, parce que maintenant, avec les réseaux de recherche automatique de comètes et d'astéroïdes, on découvre en général maintenant les comètes plutôt vers la 20e magnitude. Donc celle-ci a un peu échappé à la règle. Et elle était à l'époque à 4 fois la distance Terre-Soleil, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la distance Terre-Soleil, on appelle ça une unité astronomique. Et en fait, ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir un peu de spectacle, c'est qu'elle va passer relativement près de la Terre le 1er février à 42 millions de kilomètres. Donc c'est une comète qui est quand même pas inintéressante, hein, qui pour l'instant tient ses promesses. Elle est actuellement de magnitude 6,8 à peu près, donc elle est visible avec même des toutes petites jumelles. On peut la voir, y compris en ville actuellement, puisque par bonheur, on nous éteint la lumière des centres-villes, ce qui est une très bonne chose. Et donc, on peut avoir un spectacle qui va bénéficier au plus grand nombre. Et pour l'instant, sa magnitude prévue pour le début février est de l'ordre de 5. Donc, à la campagne, par un ciel sans lune, on devrait pouvoir en profiter. Le problème, c'est quand même qu'au moment de sa plus importante visibilité, la lune sera dans le ciel.
Aïe.
Mais ça n'empêchera pas quand même d'avoir du spectacle.
J'ai dit aïe, je vous rassure, je me suis pas fait mal, c'est juste que je réagissais au fait que la Lune sera là et pourrait être un peu gênante. Et les comètes sont imprévisibles, Philippe Morel.
C'est très imprévisible, surtout quand elle passe très près du Soleil, ce qui n'est pas le cas de la comète ZTF, parce que bon, en fait, c'est au moment du passage au périhélie que peuvent se produire des phénomènes parfois incontrôlables. Hein. On a eu le cas deux reprises en 2020, puisqu'on a eu en 2020 la comète Neowise, qui était en fait la troisième comète qui est passée sur la première partie de 2020. Il y en a eu deux autres avant, qui devaient donner du spectacle aussi, et qui, pour finir, se sont fracturées avant d'arriver à proximité du Soleil. Bon, l'une d'entre elles s'est quand même fracturée assez loin. Elle s'est fracturée à peu près à une unité astronomique, à peu près à distance Terre-Soleil. Mais souvent, ce sont les comètes qui sont avec des orbites très excentriques, donc des comètes non périodiques, qui ont le comportement le plus imprévisible. Là, donc, elle est passée, la comète ZTF, donc il y a pas longtemps, hein, elle est passée le 12 janvier au plus près du Soleil. Et a priori, pour l'instant, on n'a pas l'impression que grand-chose se soit passé pour les déstabiliser. Donc, on a quand même bon espoir d'avoir le spectacle attendu.
Et cette comète, c'est une comète périodique ou c'est une comète qui passait par là? J'ai vu de la lumière, je suis rentré dans le système solaire.
Ah oui, alors c'est une comète périodique, mais avec une très très longue période, hein. C'est une période d'environ 50 000 ans. Donc, ça veut dire que nos ancêtres l'ont probablement déjà vu passer, à peu près à l'époque où le météore cratère s'est formé, puisque le météore cratère en Arizona a aussi 50 000 ans.
Oui, bah j'étais pas né, hein.
Ben non, on s'en souvient pas.
Que dire de plus, Philippe Morel, sur cette comète, sa visibilité notamment?
Donc, elle est visible actuellement toute la nuit. On dit qu'elle est circumpolaire parce qu'elle tourne autour du pôle Nord. Elle va monter de plus en plus dans les latitudes célestes positives, hein, dans la déclinaison positive, pour arriver à la fin du mois tout près de l'étoile polaire. Elle va passer à environ une dizaine de degrés de l'étoile polaire. Ce sera donc le 30. Hein. Ensuite, elle va redescendre donc en déclinaison et elle va passer à côté de deux étoiles brillantes, très brillantes même, puisque le 6 février vers 0 h, on la trouvera à 1,5 degré à l'est de Capella, qui est l'étoile principale de la constellation du Cocher. Alors ensuite, elle va descendre le long du Cocher, donc ça veut dire qu'on pourra, avec des petits téléobjectifs, faire des images assez sympathiques, puisque dans le Cocher, il y a plein d'amas ouverts, donc rassemblant ces amas ouverts avec la comète. Et puis ensuite, du 10 au 15 février, elle va traverser le Taureau. Et le matin du 11 en particulier, du 11 février, elle sera proche de la planète Mars, en apparence. Bon, ça aura lieu en plein jour à la conjonction, à 1,3 degré, mais à quelques heures après, elle sera encore d'un degré 8, donc ce sera encore un beau rapprochement. Et puis ensuite, donc le 14, elle va passer à 1,5 degré, c'est-à-dire l'équivalent du diamètre apparent de la pleine Lune, d'un amas ouvert qui est brillant, hein, de magnitude 6,4, qui est NGC 1647. Et ensuite, elle va passer près de l'amas d'Hésiade. Et enfin, le matin du 15, elle sera à 1,5 degré à l'ouest d'Aldébaran, étoile principale de la constellation du Taureau, tout près d'Hésiade, même si Aldébaran ne fait pas partie de l'amas d'Hésiade.
Et cette comète, Philippe Morel, elle sera visible jusqu'à quand?
Ça dépend avec quoi on l'observe, hein. C'est-à-dire que nous, on la suit depuis quasiment depuis sa découverte. Hein. Après être circumpolaire, elle va être, bien sûr, quand elle va redescendre en déclinaison, elle va devenir une comète du soir. Et ensuite, elle va se noyer dans le crépuscule à peu près au mois d'avril. Hein. Au mois d'avril, elle sera d'une magnitude d'à peu près 10 approximativement. Ça restera un objet accessible avec des instruments d'amateurs, mais sous forme d'une petite boule chou, enfin quelque chose assez petit. Quoique, au mois de juillet, on voyait déjà une petite queue alors qu'elle était de 14e magnitude, c'est-à-dire qu'elle était déjà encore très faible. Et on voyait quand même qu'elle avait déjà une forme de comète.
Il faut
Alors
espérer.
actuellement, elle a une queue de poussière qui est très brillante, enfin, relativement, hein, avec une très très bonne brillance de surface. Et elle a une queue de plasma. Donc très très rectiligne, qu'on aperçoit sur des photographies à longue pause. Et c'est une queue de plasma qui, au mois de février, devrait atteindre plusieurs degrés dans le ciel. Même si elle est très faible et qu'on ne verra pas cette queue de plasma à l'œil nu dans le ciel. Ce qu'on verra, c'est peut-être la queue de poussière, qui est une espèce de virgule relativement brillante. Et par contre, en photographie, on peut faire des choses fort intéressantes, puisqu'elle a encore une fois une queue de gaz qui est très très belle.
Reste le facteur météo, Philippe Morel.
Oui, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Actuellement, On arrive à l'attraper entre les éclaircies. Alors bon, heureusement qu'on a des télescopes du type Evescope qui permettent de le faire, même si on a une éclaircie d'un quart d'heure, parce que si on voulait le faire à la conventionnelle, il faudrait descendre dans des endroits, dans des régions où le ciel est quand même beaucoup plus stable qu'actuellement. Mais ça va peut-être changer, hein. Peut-être qu'on va aller dans une situation anticyclonique où on aura une bonne température négative. Et des coupures d'électricité en plus des coupures des lumières la nuit, ce qui fait que peut-être qu'en début de nuit, on pourrait l'avoir partout.
Cette idée FM Radio que vous écoutez, et c'est l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles. On parle d'astronomie tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. Philippe Morel est président de l'Astroclub de France. Il est mon invité dans cette émission À toi les étoiles. Quelques notes de musique et on se retrouve dans un instant où nous parlons des événements astronomiques à observer durant 2023. À tout de suite.
C'est la fin, c'est la fin.
Bonne fin d'après-midi à l'écoute d'IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles, tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Philippe Morel est mon invité, il est président de l'Astroclub de France, un habitué d'À toi les étoiles. Nous parlons aujourd'hui des événements astronomiques à observer en 2023. Philippe Morel, avant cette pause musicale, on a parlé d'une comète qui sera potentiellement visible à l'œil nu fin janvier, début février, mais on aura aussi d'autres comètes à observer en 2023, peut-être un peu moins spectaculaires.
Alors moins spectaculaire, mais quand même accessible avec des jumelles, en particulier la comète Encke. Donc la deuxième comète périodique, puisque c'est une comète découverte par l'astronome français Pierre Méchain donc le 17 janvier 1786, et qui a reçu le nom de l'astronome allemand qui en a calculé l'orbite, à savoir John Franz Encke, et donc ce calcul remonte à 1819. Alors cette comète, c'est une périodique très très courte, hein, elle revient à peu près tous les 3 ans. Et là, le passage au périhélie, donc au plus près du Soleil, donc il est prévu le 21 octobre, et ce passage va succéder son passage près de la Terre, donc passage au périgé le 24 septembre. On prévoit une magnitude d'environ 9,9 le 24 septembre et 6,9 vers le 21 octobre. Alors, il sera visible bien sûr dans l'hémisphère nord. Bon, moi, je n'ai pas mentionné celles qui sont visibles dans l'hémisphère sud, hein, parce qu'elles ne nous concernent pas vraiment. Et elle sera visible uniquement dans le ciel du matin avant le lever du soleil. Mais elle ne sera pas visible à l'œil nu a priori, mais elle devrait être accessible aux jumelles. Alors ensuite, on en a une autre, hein, c'est la comète Kushida, qui est la 144e périodique. Donc la comète Kushida, c'est une comète beaucoup plus récente pour ce qui est de sa découverte, puisque c'est une comète aussi à courte période qui a été découverte le 8 janvier 1994, à l'observatoire de Yakutake au Japon, et c'est une période de 7,6 ans. Cette comète-là, elle va passer au périhélie le 25 janvier 2024. Alors pourquoi je la mentionne? C'est parce qu'elle sera déjà visible et observable aux jumelles à la fin de 2023. On la prévoit de magnitude 7,3 en janvier 2024, et elle sera au plus près de la Terre le 12 décembre 2023, à peu près à la même magnitude, 7,5. Donc c'est un objet facile aux jumelles, visible dans les deux hémisphères. Et en fait, un objet qui peut nous intéresser sur la fin de l'année. Alors ensuite, j'en ai une troisième en magasin. Il y en a d'autres, hein. Enfin, j'ai cité
Oui.
celles qui sont quand même les plus brillantes, parce que des comètes périodiques, il y en a plein. Accessibles avec des instruments d'amateurs, il y en a une quinzaine par an à peu près, hein, si on tient compte des comètes, on va dire des comètes CCD ou comètes photographiques. Donc la comète Tsuchinchan. Donc, qui est une courte période aussi, qui a été découverte en 1965, à l'observatoire de la montagne Mauve, près de Nankin, en Chine. Elle a 6,4 ans de période. On lui prévoit un périhélie le 24 décembre avec une magnitude de 7,1 et une approche de la Terre le 30 janvier 2024 avec une magnitude de 7,6. Elle sera visible dans l'hémisphère nord. Et donc, elle sera bien positionnée dans le ciel pour les observations au moment du passage au périhélie. Et donc, là, on peut espérer avoir quelque chose de sympathique aussi, encore une fois, sur la fin de l'année. Voilà. Bon, des comètes, il y en aura peut-être d'autres, hein. C'est-à-dire que, Entre le moment où on découvre une comète et le moment où elle peut être spectaculaire, il peut y avoir un délai qui, des fois, peut être inférieur à 2 ou 3 mois.
Ah
Donc,
oui.
tout espoir est permis. Bon, en sachant quand même que statistiquement, les belles comètes sont quand même plutôt rares. On a eu la comète NEOWISE en 2020.
Oui.
On a eu la comète Léonard à la fin de l'an dernier, qui était un petit peu plus compliquée parce que plus basse sur l'horizon, mais qui nous a quand même donné un superbe spectacle quand elle est passée près de l'amas globulaire Messier 3. Bon, rien dit qu'on n'en aura pas une autre cette année. Bon, c'est-à-dire qu'entre NEOWISE et la précédente, c'était Hale-Bopp, qui s'est passé 20 ans sans vraiment très très belles comètes, même s'il y a eu quelques comètes visibles à l'œil nu dans l'intervalle, mais elles étaient beaucoup moins belles que ces deux comètes-là.
Oui, Hale-Bopp, oui,
Donc ça,
ça.
une belle comète, ça reste un phénomène très rare par rapport, l'occurrence n'est quand même pas évidente.
Philippe Morel, on en a terminé avec les comètes. On va s'intéresser maintenant à d'autres événements astronomiques qu'on va pouvoir observer en 2023, notamment les alignements planétaires, quand les planètes semblent former une ligne dans le ciel par effet d'optique.
Les alignements planétaires, il y en a beaucoup. Bon, il y en a à peu près sur chaque crépuscule, dès lors qu'on a des phases de la Lune qui sont en post-nouvelle Lune ou après nouvelle Lune, quand les planètes donc sont sur le couchant, sur le levant. Il y en a une en particulier, le 1er mars, qui sera visible dans le crépuscule, où là, ça va être une conjonction relativement serrée entre Vénus et Jupiter, puisque les deux seront séparés que de 40 minutes, donc ce qui est un peu plus que le diamètre apparent de la pleine Lune, donc vers 18 h en temps universel. Donc je pense qu'à l'époque, on prend encore l'heure d'hiver, donc vers 19 h. Donc la conjonction se fera bon, pour Paris à peu près 17 degrés de hauteur, alors que le Soleil sera 7 degrés sous l'horizon, donc ça commencera à être quelque chose de bien visible. Et relativement facile parce que 17 degrés, c'est encore praticable à peu près partout, sauf là où il y a des bâtiments pour cacher l'horizon. Donc ça, c'est assez rare quand même qu'on ait ce rapprochement très serré entre Vénus et Jupiter, qui sont quand même les deux planètes les plus brillantes du système solaire. Donc ça va faire un superbe phare.
À surveiller
Alors
donc.
ensuite, ça c'est le 1er mars. Voilà. Ensuite, entre le 1er et le 3 juin, là, on va avoir un phénomène un petit peu curieux. C'est la planète Mars qui va traverser l'amas de la Crèche. L'amas de la Crèche, c'est un amas qui est situé au centre de la constellation du Cancer. C'est Messier 44, donc qui est un amas situé à un peu plus de 600 années-lumière, alors que Mars sera à seulement 17 minutes de lumière de nos yeux. Bon, le seul problème, c'est que comme ça se tient entre le 1er et le 3 juin, évidemment, la constellation du Cancer, elle est quand même très basse sur l'horizon au début de nuit à ce moment-là. Et quand la nuit astronomique sera, enfin, même pas la nuit astronomique, le Soleil, quand il sera suffisamment bas sous l'horizon, bon, il sera 14 degrés sous l'horizon quand la conjonction sera à 11 degrés au-dessus de l'horizon. Vous voyez, ça sera quand même bas sur l'horizon, mais relativement, enfin, facile d'accès quand même, même avec une paire de jumelles, hein, ça sera visible. Et là, pendant 3 jours, on pourra voir Mars circuler dans l'amas, qui est un amas dont le diamètre apparent est assez important. Et puis ensuite, bon, il y a dans les tableaux célestes, comme on dit, j'en ai retenu un, c'est le 22 juin. Et donc Vénus et Mars qui vont se réunir donc au-dessus de l'horizon ouest, un petit peu plus haut, on aura un très très fin croissant de Lune qui sera en lumière cendrée. La lumière cendrée, c'est tout simplement l'effet de la réflexion de la pleine Terre sur la Lune, sur les zones qui ne sont pas éclairées de la Lune, les zones non éclairées par le Soleil, donc de la partie sombre du croissant du disque de la Lune. Il faut savoir que la lumière cendrée, c'est quelque chose qui est maximale près de la nouvelle Lune. D'ailleurs, théoriquement, le jour de la lunaison où la lumière cendrée est maximale, c'est le jour de la nouvelle Lune. Bon, le problème, c'est que le jour de la nouvelle Lune, la Lune, on ne la voit pas, puisqu'elle est relativement alignée avec le Soleil. Donc la Lune se perd dans la lumière du Soleil, autour du Soleil. Par contre, quand il y a une éclipse totale de Soleil, où là, effectivement, on a la Lune qui devient visible parce qu'elle est juste en face du Soleil, on peut apercevoir la lumière cendrée de la Lune pendant la totalité de l'éclipse. D'ailleurs, ça se fait facilement quand on fait de l'imagerie d'éclipse totale de Soleil. Et puisqu'on parle d'éclipse totale de Soleil, il y en aura une, mais malheureusement pas visible en France. Ce sera le 20 avril. Et le 20 avril, c'est une éclipse qui va intéresser l'Australie, entre autres, et avec en gros 60 secondes de totalité, donc une totalité très courte pour laquelle il faudra faire très vite pour ramasser des images.
Oui, en effet, puisque 1 minute, ça va vraiment très très vite. Philippe Morel est mon invité, il est président de l'Astroclub de France, sur le site de l'observatoire Charles Fehrenbach qui se trouve à Priche, dans le Nord. Philippe Morel, vous parliez de la lumière cendrée sur la Lune, et quand les astronautes de la mission Artemis seront sur la Lune et qu'il y aura la lumière cendrée, ils verront une pleine Terre.
Ils verront une pleine Terre.
Oui.
Et il faut savoir que la pleine Terre vue de la Lune est beaucoup plus éclatante que la pleine Lune vue de la Terre.
Ah oui.
Simplement parce que le diamètre apparent de la Terre vue de la Lune est 4 fois supérieur, 3 fois et demi supérieur au diamètre apparent de la Lune vue de la Terre. Donc ça veut dire que l'éclairage renvoyé par la Terre sur la Lune est beaucoup plus important. Et donc ça donne un éclairage, on va dire, diffus des paysages là où théoriquement, s'il n'y avait pas ce phare dans le ciel, on ne verrait rien. On ne verrait pas de paysage parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc quand on est sur la Lune, donc on va dire du côté de la face, si on se pose sur la face cachée par exemple, sur n'importe où sur la face cachée, on ne voit pas la Terre et où dans certaines circonstances le Soleil n'est pas visible au-dessus de l'horizon, et ben donc on voit le paysage est complètement noir. On voit le ciel étoilé comme certainement jamais nous on l'a vu sur Terre, mais on peut pas voir de détails du paysage local. Sur la face visible, il y a toujours un éclairage, soit par la Terre, soit par le Soleil. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est au niveau de la pleine Lune, quand on est sur la pleine Lune, c'est la nouvelle Terre dans le ciel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la Terre, ou très très peu la Terre vue dans le ciel de la Lune. Mais par contre, c'est le Soleil qui va éclairer largement le paysage. Alors, faut savoir que sur la Lune, contrairement à ce qu'on pense, on a tous vu le lever de Terre sur la Lune. La première photo, je crois que c'était Apollo 8. Hein.
Oui.
En fait, la Lune ne se lève pas à un endroit donné. Si vous êtes sur la Lune, il n'y a pas de lever de Terre. La Terre a toujours à peu près la même position dans le ciel, à quelques degrés près. Les quelques degrés sont modulés par ce qu'on appelle la libration. Mais la position globale de la Terre dans un endroit donné de la Lune est toujours à peu près la même. C'est la position du Soleil qui change.
Philippe Morel, on va revenir à notre sujet d'origine, notamment les événements astronomiques que l'on va pouvoir observer en 2023.
Alors, donc, il y a bien sûr des étoiles filantes. Alors, des amas, des essaims d'étoiles filantes, il y en a beaucoup tous les ans. Alors, il y en a quand même deux qui sont assez importants. Bien sûr, il y a les Perséides au mois d'août. Hein. Donc, le maximum, c'est entre le 8 et le 12 août. Cette année, on va être relativement gâté parce que toute la première partie de nuit sera débarrassée de la Lune et on aura un lever de Lune en seconde partie de nuit. C'est un amas qui peut donner environ 100 à 150 météores par heure les bonnes années, on va dire. Il faut savoir que les étoiles filantes, il vaut mieux les observer le matin. Bon, c'est d'ailleurs que le matin, il y en a plus que le soir. Là, cette année, la Lune sera plutôt visible le matin, bon, bah, soit, mais par rapport à l'observation publique, il faut reconnaître que quand on fait les nuits des étoiles avec le public, quel que soit l'état du ciel le matin, bah, il a envie d'aller dormir. Donc, cette occurrence pour cette année sera quand même pas trop mal. Alors, pourquoi est-ce que c'est le matin? C'est simplement parce que la Terre avance dans le sens de l'essaim et que donc les collisions sont plus fréquentes le matin que le soir, alors que le soir, on est plutôt dans la traînée. Et ensuite, un deuxième amas qui est intéressant, c'est celui des Géminides, dont le maximum est en général le 13-14 décembre. Et là, la Lune sera quasi absente toute la nuit. Et c'est là aussi un essaim qui peut atteindre 150 météores à l'heure.
Quand
Et
même.
l'origine, c'est un astéroïde qui s'appelle Phaéton, qui est peut-être une ancienne comète qui a perdu son activité cométaire.
On va s'interrompre pour une seconde pause musicale et on revient dans un instant sur IDFM Radio, toujours avec Philippe Morel, président de l'Astroclub de France. Nous parlons aujourd'hui des événements astronomiques à observer en 2023. Restez avec nous, on va continuer à parler de tous ces événements astronomiques que nous réserve 2023. À tout de suite.
J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres.
IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.
Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre Chiens et Loups, rubrique À toi les étoiles. Tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, on prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace avec Philippe Morel, président de l'Astroclub de France. Nous parlons des événements astronomiques à observer en 2023. Alors Philippe Morel, qu'est-ce que nous réserve encore 2023 en matière d'observation à ne pas manquer ?
Par rapport à la Lune et au Soleil, bon, je vous ai déjà parlé de l'éclipse totale du mois d'avril. Bon, celle-là, elle n'est pas visible en France, on ne va pas trop s'y attarder. Alors, vous savez, on voit dans les magazines, on entend parler des super lunes, oui, des lunes bleues et autre chose de ce style. Donc, on va en avoir cette année. Alors, les super lunes, ce sont les lunes, les pleines lunes qui surviennent au périgée, c'est-à-dire quand la Lune est au plus près de la Terre, à peu près à 356 000 km. Simplement, pourquoi est-ce qu'on les appelle super lunes? C'est parce que quand la Lune est plus près de la Terre, elle a un diamètre qui apparaît 14% plus grand que quand elle est au plus loin à l'apogée, et donc si on rapporte son éclat, ça fait une 30% de lumière en plus que quand la Lune est à l'apogée. C'est pour ça que ces lunes, on les note. Hein. Et donc, il y en aura une le 3 juillet, une le 1er août, le 31 août et le 29 septembre. Alors, je vous rassure tout de suite, pour les astronomes amateurs, c'est plutôt une gêne qu'autre chose, parce que d'abord, on observe quasi jamais, la Lune au moment de la pleine Lune, parce que d'abord il y a trop de lumière et ensuite il n'y a aucun relief. Oui. Et en plus de ça, avec 30% de lumière en plus, c'est autant de lumière qu'elle va nous envoyer dans le ciel pour nous empêcher de faire autre chose. C'est ça. Donc on va dire que c'est peut-être les nuits où il faut éviter d'observer, quoique avec les systèmes d'imagerie actuels, on arrive quand même à faire des choses pendant ces nuits-là, même si visuellement dans le ciel, on ne voit finalement pas grand-chose, mis à part les étoiles les plus brillantes. Et puis ensuite, il va y avoir une lune bleue. Alors, la lune bleue, elle va pas du tout prendre une couleur bleue, évidemment. On dit qu'il y a une lune bleue. La lune bleue, c'est la deuxième pleine lune d'un même mois. Or, il va y avoir une pleine lune le 1er août, il va y avoir une pleine lune le 31 août. Donc, la lune bleue, ce sera le 31 août. Elle aura rien de plus que de caractère qu'une pleine lune normale, hein, évidemment. Ouais. Alors ensuite, il y a deux occultations planétaires. Alors, il y en a une qui est très compliquée et qui, en plus de ça, ne sera pas forcément visible. Enfin, elle ne sera pas visible de chez nous, mais pas loin de chez nous. C'est-à-dire que si vous envisagez d'aller faire un petit tour en Écosse, bah, allez-y plutôt vers le 17 mai, puisque vers 13h40 en temps universel, donc 13 après 15h40, il va y avoir une occultation rasante de la planète Jupiter par la Lune. Ce sera à peu près une quarantaine de kilomètres au sud d'Édimbourg. Mais ça va être compliqué à observer parce que d'abord c'est en plein jour et ensuite ce sera à 26 degrés du soleil, donc il faut faire ça extrêmement prudemment. Bon, ensuite il y en a une autre qui sera aussi visible en plein jour mais qui elle sera visible de chez nous, c'est le 9 novembre où là la planète Vénus va être occultée par la Lune avec une immersion à Paris qui va être donc en temps universel entre 9h53 et 9h54 en gros. Et la réapparition, donc ce qu'on appelle l'immersion, entre 10h54 et 10h55. Là, ce sera plus facile, puisque Vénus est quand même bien brillante, plus brillante que Jupiter le jour, et ce sera 45 degrés du Soleil. Donc ça, c'est jouable, si jamais il fait beau.
Oui, toujours le risque météo, en fait, Philippe Morel.
Ah, ben c'est le facteur météo, ça, ouais. On est obligé de faire avec, on ne peut pas faire autrement. Alors, y a des solutions, c'est d'aller dans des endroits où la météo est plus favorable, mais enfin, des fois, on se rate aussi sur ce genre de choses. Par exemple, il y a eu l'occultation de Mars par la Lune dans le matin du 8 décembre, donc l'an dernier, où en fait, toute l'Angleterre était dégagée, en gros, et où en France, il n'y avait quand même pas beaucoup d'endroits où le ciel était dégagé. Donc nous, on avait envisagé de passer par le Channel la veille et donc d'aller l'observer sur le sud de l'Angleterre. Et par miracle, il y a une éclaircie qui s'est dessinée sur la pointe du Pas-de-Calais, donc du côté des caps, Cap Grenet, Cap Blanet. Et donc on est parti là-bas et là, on l'a eu de façon magnifique, aussi bien l'immersion que l'émersion. Et c'était la première occultation de Mars visible la nuit depuis 1972 et la dernière avant 2052. Donc là, on a vraiment fait le bon coup, moyennant un déplacement de 200 km de chez nous, puisque de l'observatoire Charles Fehrenberg jusqu'au Cap, il y a à peu près 200 km. On voyait qu'en se déplaçant, on peut sauver des phénomènes. Hein. Ça, c'est. Mais il faut vraiment être tout à fait au fait de la météo, suivre les images satellites et puis savoir se décider au moment où il faut prendre une décision, ce qui est des fois pas facile parce que plus d'une fois, on s'est déplacé à des endroits où on n'a rien vu, alors que si on était resté chez nous, on aurait vu quelque chose. Ça arrive aussi.
Oui, ça arrive aussi, je vous confirme, Philippe Morel, je vous confirme.
Alors ensuite, par rapport à la Lune, il y a une éclipse partielle de Lune le 28 octobre qui va être visible en France. C'est une petite partielle, il y a en gros 12% du diamètre de la Lune qui va être éclipsée. Donc elle va être visible de nuit, évidemment, comme toutes les éclipses de Lune, puisqu'on ne peut pas voir la pleine Lune le jour, forcément. Alors, elle va commencer, je parle de l'entrée dans l'ombre, hein, parce que l'entrée dans la pénombre, c'est pas vraiment spectaculaire, et on voit pas grand-chose autrement que quand on fait des images. Donc, ce sera en temps universel entre 19h35 et 20h52. Donc, c'est pas une éclipse exceptionnelle, mais au moins, elle a le mérite d'exister, et c'est la seule qui sera visible en France, sur cette année 2023. Donc, vous voyez que globalement, mis à part la comète ZTF, c'est pas une année vraiment très exceptionnelle par rapport au nombre de phénomènes. Par contre, il y a une chose qu'il va falloir qu'on suive cette année, c'est le Soleil. Parce que le Soleil commence à nous faire son grand spectacle et il n'y a pas de raison que ça s'arrête au courant de 2023 puisqu'on s'en va vers le maximum qui est prévu en 2025. Donc on aura de plus en plus, a priori, de tâches et de groupes de tâches solaires, dont certains seront probablement visibles à l'œil nu. Et pour les personnes qui ont la chance de pouvoir monter en latitude, c'est souvent le festival du côté des aurores boréales, donc, ou des aurores australes, hein, ça dépend dans quel sens on va, hein, les aurores polaires en général. Donc, l'occurrence, l'activité aurorale est beaucoup plus importante cette année qu'elle l'était il y a 2-3 ans. Il n'est pas forcément interdit de penser que lors d'une activité aurorale importante, voire très importante, on puisse les apercevoir de chez nous, ce qui est déjà arrivé. C'est déjà arrivé dans les précédents maxima d'activité. Hein. On a le souvenir de deux, trois belles aurores boréales qui ont intéressé la France, même le sud de la France. Hein. Donc, lors du maximum de 2001-2002, par là, il y en a eu plusieurs. Donc, ça peut se reproduire.
Vous êtes sur IDFM Radio, dans cette émission Entre chiens et loups, en rubrique À toi les étoiles, Philippe Morel est président de l'Astro Club de France. On parle des événements astronomiques qu'on va pouvoir observer en 2023. Justement, Philippe Morel, par rapport à ces aurores boréales, ça m'a toujours surpris qu'on puisse en avoir sous nos latitudes en France.
Alors là, par rapport aux aurores boréales, c'est le genre de phénomène qui est difficilement prévisible. Ce qu'on peut prévoir, c'est l'occurrence, enfin la probabilité de survenue d'une aurore en fonction de l'activité donc électromagnétique de la ceinture, des particules arrivant dans la ceinture de Mandalen. Ça, on peut le prévoir à quelques jours d'avance, voire 24-48 heures à l'avance. Mais alors, pour tout vous dire, on a déjà eu des cas où on avait une activité prévisionnelle importante et où on n'a pas vu grand-chose. Et curieusement, ça, je parle là de l'observation des aurores boréales dans les pays où on les observe, c'est-à-dire en Laponie, entre autres, quand on est en Europe. Et des fois, on a eu une activité aurorale prévue qui était relativement faible et quand même du spectacle important. Donc, ça veut dire que, il faut être à l'affût. Alors, il y a des réseaux qui informent, hein, qui donnent des alertes, des réseaux d'alerte. Et puis, mais ensuite, il y a le bouche à oreille entre gens qui voient des choses et ça peut marcher aussi. Alors, ça veut dire que quand on sait qu'il y a une éjection de masse coronale du Soleil importante en direction de la Terre, bon, le délai d'arrivée sur Terre, c'est environ 40, entre 48 et 72 heures. Donc, quand on entend dire qu'il y a une éjection qui va bien, il vaut mieux être un petit peu à l'affût. Et là encore, bah, évidemment, il vaut mieux que ce soit une nuit où il n'y a pas trop de lune dans le ciel. Et une nuit, on se trouve loin des lumières de la ville. Parce qu'une aurore, c'est quand même beaucoup plus beau dans un ciel de campagne que dans un ciel de ville.
En
Même
effet.
si les très brillantes sont visibles en ville.
Alors là, vous m'apprenez quelque chose, Philippe Morel, on peut voir des aurores boréales même en ville.
Oui, parce qu'une aurore boréale, il y en a certaines, on ne va pas dire que c'est limite éblouissant, mais elles peuvent éclairer le sol. Hein.
Ah oui.
Donc, c'est quand même. Ah oui, c'est quand même des phénomènes qui sont à la fois déroutants et complètement inattendus. Hein. Quand ça commence à danser partout, il y en a partout dans le ciel. Bon, chez nous, quand les aurores surviennent, ça reste des aurores cantonnées à la région donc du ciel qui est plutôt vers le nord. C'est très très rare d'avoir des aurores vertes visibles de chez nous, puisque les aurores vertes sont celles qui correspondent à une altitude qui va environ de 80 à 200 km d'altitude, et les aurores rouges, ce sont celles qui sont au-dessus, jusqu'à 400 km à peu près. Donc ça veut dire que comme nous, on est quand même assez loin de la zone d'occurrence, même si la zone d'occurrence déborde largement vers le sud, on verra beaucoup plus facilement des aurores rouges que des aurores vertes. Alors que quand on va donc dans les latitudes plus élevées, on voit plutôt des aurores vertes et un peu moins de rouges. Bon, enfin, c'est un détail, il n'empêche, une aurore boréale, même quand elle est rouge, elle est très belle.
J'aimerais bien voir ça, puisque je n'ai encore jamais vu d'aurore boréale de ma vie. Philippe Morel est mon invité, il est président de l'Astroclub de France. On va s'interrompre une troisième et dernière fois pour un petit peu de musique. Et puis on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de cette émission Entre chiens et loups, rubrique à toi les étoiles. Nous parlons des événements astronomiques à observer en 2023, quoique on a fait le tour. Donc on va plutôt parler des missions spatiales qui vont être lancées en 2023. Et Dieu sait qu'il va y avoir des choses importantes. Donc restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de cette émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles, que vous retrouvez tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. On prend de la hauteur pour voir ce qui se passe dans l'espace. Nous avons parlé des événements astronomiques que vous allez pouvoir observer en 2023 avec Philippe Morel, président de l'Astroclub de France. Et sur les quelques minutes qui nous restent, nous allons maintenant parler du programme spatial, de ce qui va se passer dans le spatial en 2023. Philippe Morel, il va se passer plein de choses.
Il y a quelques rendez-vous donc qui vont toucher aux missions spatiales, hein, en particulier le lancement de la sonde spatiale JUICE, qui veut dire Jupiter Icy Moon Explorer, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne qui devrait être lancée par la fusée Ariane 5 en gros vers le mois d'août. Quand je dis en gros vers le mois d'août, vous savez qu'on est toujours sujet à des retards, hein, on a vu le cas récent avec Artemis, entre autres, hein. Et ce programme vise à explorer trois des quatre satellites galiléens de Jupiter. Les satellites galiléens sont ceux qui ont été découverts, comme leur nom l'indique, par Galilée. Et donc, à partir de 2030, la sonde va devenir opérationnelle pour étudier Callisto, Europe et Ganymède. Et elle va finir par se placer en orbite autour de Ganymède en décembre 2032 pour une étude approfondie qui doit s'achever en septembre 2033. Donc là, on va en savoir beaucoup plus sur ce satellite qui nous pose encore quelques énigmes. Bon, satellite qui a déjà été photographié, étudié lors des précédentes missions, hein, depuis qu'on explore le système de Jupiter par les sondes. Hein. Alors ensuite, on a un observatoire solaire qui va être lancé. Il s'appelle PUNCH, Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere. Donc, c'est une mission de l'Agence spatiale américaine, donc de la NASA. Donc, l'objectif est d'étudier les interactions entre les événements se produisant dans la couronne solaire et les événements donc à l'origine du vent solaire. Et de l'autre côté, la corrélation entre le vent solaire et l'héliosphère, qui est la région de l'espace dans laquelle donc la densité d'énergie du vent solaire est supérieure à celle du milieu interstellaire. Et c'est une durée de vie prévue d'environ 27 mois. Alors, en général, les durées de vie dépassent souvent, et par bonheur, souvent largement ce qui était prévu initialement. On en a l'exemple avec l'observatoire solaire SOHO qui fonctionne depuis maintenant plus de 30 ans, donc qui certes n'envoie plus beaucoup d'images, mais alors que cette mission était prévue pour durer que quelques années. Alors ensuite, grand moment, le retour de la mission Osiris-Rex.
Ah.
Osiris-Rex, donc c'est une mission, je pense que vous en avez déjà parlé, hein.
Oui.
C'est une mission qui avait pour objectif l'étude d'un astéroïde qui s'appelle Bennu et dont le but était de ramener des échantillons de cet astéroïde, qui est un astéroïde très primitif. Et donc le prélèvement sur Bennu a été réalisé le 20 octobre 2020 et on attend le retour de la capsule des échantillons pour le mois de septembre. Et en fait, une fois que la sonde en question est toujours dans l'espace, hein, là pour l'instant c'est l'atterrisseur, la capsule avec les échantillons qui va revenir, mais la sonde, donc elle doit débuter donc une nouvelle mission, puisqu'elle va explorer donc un autre astéroïde qui est Apophis. et elle devrait se passer en orbite autour d'Apophis en 2029. Alors ça, c'est une mission très intéressante parce que Bennu, c'est un astéroïde qui est quand même très primitif. Donc le but, c'est d'essayer d'en savoir plus justement sur la création du système solaire et les phénomènes d'accrétion.
On va suivre ça de près, bien sûr, Philippe Morel, et on continue dans la découverte du programme spatial durant cette année 2023.
Ensuite, on a le lancement d'un télescope aryoïque franco-chinois, le télescope SVOM, Space Based Multiband Astronomical Variable Object Monitor, qui est un observatoire spatial qui va travailler dans les rayons gamma et X. Vous savez que pour observer en rayons X en particulier, il faut être au-dessus de l'atmosphère, parce que l'atmosphère, fort heureusement, nous arrête les rayons X, ou l'immense majorité du rayonnement X, parce que sinon, on serait mal en point.
Oui.
Et donc, le but, c'est de détecter des sursauts gamma et d'en déterminer les caractéristiques et la localisation afin de lancer l'alerte pour leur suivi par les observatoires terrestres. Il y a de nombreux projets d'observatoires et même des observatoires fonctionnant déjà qui fonctionnent donc à ce type d'alerte de façon à pouvoir localiser donc la source visuelle à l'origine des rayonnements gamma. Des gamma ray bursts. Et enfin, il y a un autre télescope qui va être lancé, c'est le télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne, dont le but est de déterminer l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers et la nature de sa source. Donc, en gros, ce qu'on appelle habituellement l'énergie sombre, dont on ne connaît pas grand-chose forcément, puisqu'elle est sombre. Voilà, donc ces quatre missions-là qui sont programmées, bon, il y en aura d'autres, je vous passe le détail sur les lancements, les navettes qui vont partir d'astronautes vers l'ISS, hein, il y en aura plusieurs, hein, mais bon, ça, on va dire, c'est du classique.
Oui, et puis les auditeurs intéressés peuvent se renseigner sur Internet ou encore sur Twitter. Philippe Morel, on arrive bientôt au terme de cette émission À toi les étoiles. Est-ce que il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter avant de conclure?
Oui, alors il y a des petites choses qu'on peut rajouter, c'est les rassemblements astronomiques. Hein. Vous
Oui.
savez que le week-end de l'Ascension est très propice aux rassemblements astronomiques. Hein. Donc il y aura les nuits astronomiques de Touraine en principe, les rencontres astronomiques Centre-Ardennes, les rencontres astronomiques de printemps. Ça, c'est des rencontres essentiellement tournées vers les observations, les gens qui viennent avec leur télescope pour observer tous ensemble. Ensuite, il va y avoir les nuits des étoiles. Bon, on n'a pas encore trop de précisions sur la date. Il y a les nuits des étoiles d'hiver, je crois que c'est le 11 février. Et les nuits des étoiles d'été, je pense que ce sera le 12-13 août, puisque c'est quand même le week-end où elles seront le plus favorables. Ensuite, il y a des rassemblements astronomiques, hein, que ce soit les rencontres Astro-Ciel à Valdrome. Nous, à l'Astroclub de France, on organise nos rencontres donc à Clamensane du 5 au 20 septembre. On a visé septembre parce que les nuits sont plus longues, le camping est moins cher et il fait beaucoup moins chaud. Et on a le camping rien que pour nous, ça, ce sont des détails. Et puis ensuite, à l'Astroclub de France, évidemment, on va faire le Festival du Soleil, journée Pierre Bourges, comme tous les ans, pour rendre hommage à Pierre Bourges. Cette année, ce sera donc le week-end donc du 24-25 juin. Et on a plusieurs sites en France qui participent et je ne peux qu'encourager les auditeurs responsables de clubs et d'associations de nous rejoindre parce qu'en gros, plus on sera nombreux, plus on rendra un hommage digne à ce père fondateur de l'astronomie d'amateur en France. Voilà les principaux rendez-vous qu'on peut citer. Hein. Bon, alors je ne sais pas s'il y aura des rencontres du ciel et de l'espace cette année parce que là, ils ont fait 2 années de suite parce pour rattraper l'année qui avait été ratée à cause du Covid.
Exact.
Peut-être, hein, mais pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus.
Eh bien, écoutez, Philippe Morel, pour avoir enregistré plusieurs émissions aux rencontres du ciel et de l'espace, les organisateurs m'ont dit que c'était une biennale et que ça avait lieu les années paires. Alors, si on a eu deux rencontres du ciel et de l'espace, coup sur coup, c'était justement pour se recaler sur les années paires. Donc, à moins qu'ils aient décidé que ça devienne une annuelle, normalement, les prochaines rencontres du ciel et de l'espace, ce sera en 2024. Philippe Morel, on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles, et tout à l'heure vous parliez d'une éclipse de lune qu'on pourra observer le 28 octobre 2023. Eh bien, sachez que ça tombera pile le jour de mon anniversaire, puisque en effet c'est le 28 octobre 1973 que j'ai poussé mon premier cri.
Ah, alors là, éventuellement, on peut vous proposer de venir faire la fête chez nous, parce qu'on va l'observer, évidemment, et de fêter ce grand jour dignement. Ça, il n'y a pas de problème.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'un demi-siècle, ça se fête. J'y réfléchirai. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci Philippe Morel pour votre participation à cette émission À toi les étoiles. Je rappelle que vous êtes président de l'Astroclub de France qui se trouve à Priche, à l'observatoire Charles Fehrenbach. Merci beaucoup Philippe Morel et encore une fois tous mes vœux pour 2023.
Merci beaucoup Franck. À bientôt.
Au revoir. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. Encore une fois, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2023 à vous, à vos proches. Profitez de vos proches. Et dans un instant, vous allez retrouver Olia pour son émission Happy Hour. Je te souhaite aussi une bonne année, Olia, hein, qui vient de rentrer dans les studios. Dans sa langue, on dit Happy New Year. Voilà. Et on se retrouve le troisième mardi du mois de février, ce sera le mardi 21 février, 18h-19h. Soyez au rendez-vous, d'ici là, portez-vous bien et encore une fois, bonne année!